pluie sur le reste des régions. Et attention aux orages, 14 départements, donc de la Somme à Lyon, en passant par toute la région parisienne, sont en vigilance orage, aux orages forts, à partir de 17h. Donc on va avoir une fin de journée très très agitée sur le pays. 26 degrés à Strasbourg, 20 à Paris et 10 à Tarbes.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mercredi 1er mai, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et elle a une pression maximale sur les épaules des Parisiens. Demi-finale allée de la Ligue des Champions ce soir pour eux face à Dortmund. Match qui se déroulera dans le plus grand stade allemand. 82 000 places, temple du ballon rond à l'ambiance survoltée. Qui est le meurtrier présumé du jeune Mathis à Châteauroux, mis en examen, écroué? Cet adolescent d'origine afghane est bien connu des services de police. Profil des plus inquiétants qu'Europe 1 vous révèle dans ce journal. S'oriente-t-on vraiment vers une trêve au Proche-Orient? Le Hamas a jusqu'à ce soir pour répondre à une offre israélienne de cesser le feu. Europe 1 est à Tel Aviv dans un instant. Et puis dans ce journal également, la disparition d'un immense écrivain, l'américain Paul Auster, décédé à l'âge de 77 ans. Pour lui, chaque livre était une renaissance, avait-il confié à Europe 1, vous l'entendrez. À 8h10, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, magistrate, auteur du livre La colère monte, Béatrice Brugère, nous décrira la cartographie de la grande violence qui monte, proportionnellement d'ailleurs à la colère qu'elle décrit dans son livre. À tout à l'heure.
Europe 1.
Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On a déjà la musique, on est déjà prêt. Paris entre dans le dur aujourd'hui. Demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir face à Dortmund. Coup d'envoi 21h. Bonjour Cyril de la Morinerie.
Bonjour Fanny Marceau, bonjour à tous.
Bon, c'est seulement la quatrième fois que les Parisiens sont en demi-finale de C1 et comme à chaque fois, l'enjeu est de taille pour les Parisiens, Cyril.
Oui, après avoir été balayé en demi-finale il y a 3 ans par Manchester City, bien cette fois le PSG ne veut pas laisser passer sa chance de retourner en finale. Paris connaît très bien Dortmund. Il y a 5 mois, le PSG est allé décrocher un match nul en Allemagne lors de la phase de groupe de la compétition européenne. Méfiant, si Dortmund a moins de stars et n'est que 5e du championnat allemand, eh bien ce club est invaincu dans son enceinte depuis 3 ans en Ligue des Champions. Averti sur Europe 1, Guillaume Varmuz, ancien gardien du Borussia Dortmund.
On voit que c'est compliqué d'aller gagner là-bas, donc ce sera déjà un premier exploit si Paris Saint-Germain venait à le faire. Mais surtout, l'Atlético Madrid, qui a été éliminé et qui était en position favorable, a été renversé. C'est le match aller, encore le match retour, c'est sûr, mais il va falloir bien négocier ces 2 fois 45 minutes.
Le PSG est au complet, sera emmené par Kylian Mbappé, mais il faudra jouer en équipe comme à Barcelone lors du tour précédent pour se qualifier.
Oui, l'enjeu est important pour les Parisiens, Cyril, dans un stade de 82 000 places. C'est gigantesque et l'ambiance y est survoltée.
Elle est incroyable cette ambiance. Dortmund est dans la roue, hein. C'est un club ouvrier avec des supporters passionnés. Le Westfalenstadion, c'est plus de 80 000 personnes, vous l'avez dit. C'est une ambiance dingue parce qu'il y a ce mur jaune, notamment à la sud-tribune, dans laquelle se retrouvent les plus irréductibles supporters, tous de jaune vêtus. Et comme à Liverpool, en Angleterre, vous l'entendez, ils chantent cet hymne « You never walk alone », »,« Vous ne marcherez jamais seul ». Eh bien, ce soir, les 4000 supporters parisiens auront sans doute du mal à se faire entendre.
Cyril de la Morinerie. Hier soir, l'autre demi-finale allée de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich s'est soldée par un match nul de partout. Retour prévu mercredi prochain à Santiago de Bernabéu avec toujours cette musique qui nous met forcément une grande émotion.
Et il est 8h03 sur Europe 1. Nous sommes le 1er mai. Il y a du nouveau dans les porte-monnaies.
Le kilowattheure de gaz naturel coûte 1,4% plus cher à partir d'aujourd'hui. Par ailleurs, il va falloir désormais payer un forfait de 100 € pour utiliser votre compte personnel de formation. Le CPF sont exemptés les demandeurs d'emploi et les salariés dont l'employeur prend en charge le montant. Un 1er mai dans la rue, jusqu'à 150 000 manifestants attendus partout en France. 1er mai également politique. Jordan Bardella présente à Perpignan les 35 noms de sa liste pour les élections européennes. Et Marion Maréchal se rend quant à elle à Domrémy, dans les Vosges, pour un hommage à Jeanne d'Arc.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04.
J'espère que la justice ne sera pas trop laxiste. Ça, c'est l'espoir d'un père endeuillé, celui de Mathis, 16 ans, poignardé à mort dimanche à Châteauroux.
Son meurtrier présumé, âgé de 15 ans, a été mis en examen, placé en détention provisoire. Il s'agit d'un jeune Afghan en situation régulière en France. Un jeune homme dont la violence était notoire, Maïlène Trémollet.
Oui, attention à ce que vous allez entendre. Il s'agit d'une vidéo inquiétante et violente, non datée, sans lien avec l'agression de dimanche, postée sur les réseaux sociaux par un compte au nom de l'assaillant.
Vous voyez, là, moi, j'ai un couteau. Voilà. Là, je vais aller devant, je suis du 6 de pute. Voilà, j'ai trop la haine. Sur la tête de ma mère, je vais niquer sa mère et...
Mineur afghan, situation régulière, né à Kaboul, Rahman, 15 ans, est déjà connu des services de police. Décrit comme un enfant violent, il vit dans le quartier de Saint-Denis, à Châteauroux, au sein d'une famille également connue des forces de l'ordre. Arrogant et provoquant, selon les autorités locales, il proclame régulièrement sur ses réseaux sociaux sa haine des policiers. Ce ressortissant afghan est interpellé en février dernier en possession d'un couteau. Puis la semaine précédant la mort de Matisse, il est même mis en examen pour vol avec violence en réunion. Placé sous contrôle judiciaire, il se vante ensuite de sa garde à vue devant ses amis. Samedi dernier, après avoir perdu une battle de rap, Rahman aurait proposé à Matisse d'en découdre lors d'un combat qu'il aurait perdu. Il serait alors parti chercher un couteau pour se venger, avec la fin tragique que l'on connaît.
Maïalène Trémollet.
Aux États-Unis, à présent, c'est l'information de la nuit, l'évacuation par la police des militants pro-palestiniens barricadés dans un bâtiment de la prestigieuse université de Columbia.
Oui, les forces de l'ordre ont dû passer par une échelle pour accéder à une fenêtre et pénétrer dans le bâtiment. Le maire de New York dénonce des militants qui, je cite, ne sont pas là pour promouvoir la paix, mais pour semer la discorde et la division. La présidente de l'université a demandé à la police de rester sur le campus jusqu'au 17 mai.
Et pendant ce temps, au Proche-Orient, le compte à rebours est lancé. Le Hamas a jusqu'à ce soir pour donner sa réponse quant à la proposition formulée par Israël d'un cessez-le-feu.
Accord défendu bec et ongle par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il doit rencontrer dans une quarantaine de minutes le premier ministre israélien. Cette trêve va-t-elle vraiment voir le jour ? C'est toute la question ce matin, Ariane Ménage.
Oui, en Israël, une équipe de négociateurs est prête à s'envoler pour le Caire. Mais avant de donner le feu vert au départ de cette délégation, le cabinet de guerre israélien attend la réponse du Hamas. Ce sera l'objet de la réunion prévue ce matin entre Benjamin Netanyahou et le chef de la diplomatie américaine. Depuis des jours, Anthony Blinken appelle le Hamas à accepter l'accord, je le cite, sans plus tarder. Le timing est critique alors qu'Israël prépare une offensive militaire particulièrement redoutée dans la ville de Rafah. Et pourtant, sorte de pied de nez à l'administration américaine. Hier soir, juste avant qu'Anthony Blinken n'atterrisse en Israël, Benjamin Netanyahou affirmait que cette opération aurait bien lieu, accord de trêve ou pas.
Nous entrerons à Rafah parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous détruirons les bataillons du Hamas, nous atteindrons tous les objectifs de guerre, y compris le rapatriement de tous les otages.
Le message paraît surtout destiné aux alliés d'extrême droite du premier ministre israélien. Ces derniers jours, certains ont menacé de faire tomber le gouvernement si Israël renonce à son opération militaire à Rafah.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël.
C'est un monstre sacré de la littérature américaine. Il s'est éteint cette nuit.
Léviathan, la trilogie new-yorkaise, Moon Palace, Paul Auster avait 77 ans. Il est mort chez lui à Brooklyn des suites d'un cancer du poumon. Après une vie consacrée au livre, il en a écrit une quarantaine, traduit dans plus de 40 langues, dont le français qu'il aimait particulièrement. Sur Europe 1 en 2018, il racontait son éternelle quête de nouveauté.
Je ne veux pas me répéter, hein. Je ne veux pas écrire toujours le même livre. Et chaque fois que j'ai commencé d'écrire un roman, c'était contre tous les autres livres que j'ai écrits. Chaque livre, c'est un nouveau commencement pour moi.
Archive Europe 1 de La Voix et Livre au micro de Nicolas Carreau qui est justement avec nous ce matin. Bonjour Nicolas.
Bonjour Fanny.
Le Paul Auster, au français parfait, avec ce petit accent qu'on adore, on l'entend. Il a vécu 4 ans à Paris, mais il était fondamentalement new-yorkais.
On peut même dire, oui, que New York était un personnage principal dans quasiment chacun de ses romans. Il explose d'ailleurs sur la scène littéraire grâce à sa trilogie new-yorkaise. 3 romans, Cité de verre, Revenant et La Chambre dérobée, tous réunis en 87 dans un seul volume. New York est le terrain de jeu, le labyrinthe dans lequel il perd ses personnages, toujours en quête d'identité. C'est ça son obsession, encore une quête d'identité et aussi un roman d'aventure en 90 avec Moon Palace, grand succès qui l'installe définitivement. La reconnaissance d'ailleurs s'était fait un peu attendre. Il écrit beaucoup dans les années 70, mais il a du mal à émerger, il vit de petits boulots en partie et il retourne séjourner quelque temps dans ce qu'il appelait son deuxième pays, la France. Il a étudié même la littérature française à Columbia, il a traduit des auteurs français, Breton, Mallarmé ou Michaud. La fin de sa vie est marquée par des épreuves En 2022, son fils est inculpé pour homicide involontaire puisque sa fille de 10 mois s'était intoxiquée avec de l'héroïne et ce même fils est mort quelques jours plus tard d'une overdose. Le dernier roman paru de Paul Auster s'appelle Baumgartner chez Actes Sud.
Nicolas Caro, rendez-vous donc dimanche 19h sur Europe 1.
Ça marche.
Dans La Voix et Livre, on pourra reparler d'ailleurs de Paul Auster,
oh,
peut-être.
Sans doute, sans doute.
Vous n'aviez pas exploré sa bibliothèque, j'imagine. Hein.
Non, j'aurais bien compliqué. Aimé.
Mais vous avez eu le privilège de l'interviewer, ce qui est quand même pas
oui,
donné ouais. à tout le monde.
Surtout un Américain qui parle français, c'est pas tous les jours.
Ah oui.
Et c'est un cadeau.
Qui aime la France. Mais c'est vrai que on en parlait avec Nicolas. Paul Auster est-il un très grand écrivain américain? Ça se discute. Hein, parce que c'est vrai qu'il a toujours eu du mal aussi à choisir quel livre il souhaitait écrire. Le polar virant parfois à l'histoire d'amour ou je ne sais quoi.
Et c'est ça ce qui fait sa spécificité. Ouais. On le lit un peu dans un brouillard souvent.
Ouais.
Merci beaucoup Nicolas.
Merci Nicolas, merci aussi Fanny Marceau. Restez avec nous sur Europe 1, n'oubliez pas à partir de 8h30, vos signatures. Nous sommes avec Gaspard Proust, avec Emmanuel Ducrot, avec la revue de presse d'Olivier Delagarde qui a eu bien des difficultés à écrire ce matin. Il n'y a pas de journaux dans les kiosques, mais il a tous les magazines de la semaine. Il nous racontera 2-3 histoires. Dans un instant sur Europe 1, la magistrate Béatrice Brugère est l'invitée de Sonia Mabrouk. Il est 8h10.
7h, 9h,
Europe 1 matin.
Quand vous avez un brise-glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « Je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de piou ! Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération « C'est nouveau et c'est moins cher », découvrez notre cuisine en kit de la nouvelle collection à moins de 1 500 € seulement. Moins de 1 500 € la cuisine, garantie 25 ans et fabriquée par la paire. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99 €. 36,99 € au lieu de 39,99 €, soit 9,25 € le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Téléchargez l'application Europe 1.
Tout Europe 1 dans votre mobile. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Tout de suite sur Europe 1, Béatrice Brugère est l'invitée de Sonia Mabrouk.
Bienvenue, bonjour Béatrice Brugère.
Bonjour, merci de votre invitation.
Et merci de votre présence. Vous êtes magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO et vous êtes l'auteur d'un livre remarqué au titre sans doute révélateur de la situation qui est la nôtre, La colère monte, aux éditions de l'Observatoire. Il y a quelques semaines, Béatrice Brugère, nous parlions ici même de Philippe battu à mort à Grande-Synthe par des adolescents de 14 et de 15 ans. Depuis quelques jours, c'est Mathis, malheureusement, poignardé par un mineur du même âge qui fait tragiquement la une de l'actualité. C'est fait de société s'enchaîne aujourd'hui. Au-delà des statistiques et des chiffres, est-ce que déjà, du haut de votre expérience et de votre carrière, vous avez déjà connu, non pas tant dans la, comment dire, dans la répétition des faits, plutôt que dans leur intensité, un tel enchaînement ?
Alors oui, votre question elle est intéressante parce qu'en fait, les chiffres ne laissent pas, en fait, ne disent pas grand-chose sur l'augmentation de la violence. C'est surtout l'intensité qui est intéressante. C'est-à-dire que ce que l'on constate, c'est qu'on a des faits de plus en plus graves commis par des gens de plus en plus jeunes et souvent avec des actes quasi de barbarie et surtout une absence totale d'empathie. Donc ça, c'est assez marquant parce que c'est vrai que sur l'augmentation des violences, on voit aussi un changement majeur, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui sont incarcérés, non pas pour des atteintes aux biens, mais pour des atteintes aux personnes. Donc on voit très bien que là, on est sur un changement sur la nature de la violence et sur la nature de la délinquance qui doit interroger de toute façon notre société dans sa globalité.
Et j'allais dire, dans ce cas-là de plus sacré, si je puis dire, quand vous avez dit manque d'empathie, le pédopsychiatre Maurice Berger, à propos de ces très jeunes capables d'ultra-violence, voire de barbarie, vous l'avez dit, décrit une atrophie, presque une absence totale d'empathie. C'est comme si l'autre n'était plus humain. Est-ce que vous diriez cela aussi, Ebbet
Oui, alors c'est intéressant parce que lui, il a l'approche d'un médecin et il décrit très bien comment justement le cerveau fonctionne et comment on peut justement, j'allais dire, atrophier une partie de son cerveau parce que c'est le rapport déjà à la compréhension, à l'éducation, mais c'est aussi le rapport à la langue, c'est-à-dire quand on ne maîtrise pas la parole, il reste les coups. Quand on ne sait pas parler, il reste la violence. Et donc, on voit très bien qu'un enfant qui n'a pas eu un développement non plus, ou en tout cas qui était lui-même aussi victime de violence, ou qui n'a pas eu un développement neurobiologique dans un environnement affectif, on crée déjà, d'une certaine façon, les conditions d'une violence. Je ne dis pas que tout le monde est conditionné pour être violent, mais en tout cas, on ne l'aide pas à pouvoir développer ce qu'on appelle la parole, qui justement stoppe la violence.
Absence totale d'empathie, ça veut dire déchaînement parfois de barbarie, mais alors dans de telles conditions, je ne vais pas être caricaturale, il y a sans doute beaucoup de solutions qui seront apportées ou de premières pistes du gouvernement, mais une circulaire qui prévoit des mesures d'intérêt éducatif pour des mineurs de 13 à 16 ans, sur le modèle un petit peu des travaux d'intérêt général pour les majeurs, telle qu'elle a été annoncée par le garde des Sceaux hier, dit-il, pour endiguer la violence, est-ce que ça vous paraît être un bouclier aujourd'hui face à ce que vous venez de décrire ?
Non, c'est pas du tout un bouclier, mais on voit très bien qu'on est dans l'urgence de trouver des solutions et de faire des annonces. Ce qui est important aujourd'hui, et le Sénat d'ailleurs l'a dit, mais il n'y a pas que le Sénat, c'est qu'il faut réinvestir intellectuellement ce champ-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de sortir des recettes ou d'avoir des idées simplistes ou réductionnistes sur les causes de la violence. Elles sont complexes, elles sont multiples, et elles sont toujours celles d'un parcours individuel. Mais ça ne nous autorise pas à ne pas travailler non plus sur ce que la société produit, sur le délitement sociétal, sur ce qu'est une cellule familiale, comment aider une cellule familiale, sur la place de l'éducation, sur la place des réseaux, sur la place de la pornographie, etc., etc. Mais le ministère de la Justice, et c'est pas du fait de ce ministre-là, depuis des années, n'a pas investi le champ intellectuel pour comprendre ce qui se passe. Donc, conclusion,
n'a pas investi quand même.
Non, alors que c'est ce que dit le Sénat.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire que
le fameux rapport qui est extrêmement détaillé,
qui est un rapport d'octobre 2021 sur la prévention de la délinquance, ils disent non seulement les chiffres, les statistiques ne sont pas fiables, c'est une photographie partielle, voire partiale. Donc ça, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que ceux qui s'appuient sur les chiffres pour dire non, regardez, ça n'augmente pas, ou oui, ça augmente. En fait, ces chiffres ne sont pas fiables. Ce sont de vagues indicateurs. Ils sont pas complets, donc ça ne suffit pas. Et en plus, intellectuellement, on ne fait pas d'évaluation des politiques publiques. On légifère à l'aveugle. On vient encore de réformer, il y a à peine 2 ans, le code de justice des mineurs.
Et en deux temps.
Et en plus, on n'arrête pas de le réformer. Donc on légifère à l'aveugle. Il n'y a pas d'analyse criminelle.
C'est important ce que vous dites, parce que pour répondre à un problème, si on n'a pas la bonne base, si on n'a pas le bon diagnostic, c'est un sujet quand même.
Nous, on a tiré la sonnette d'alarme. Le problème de la justice des mineurs, particulièrement de la justice des mineurs, c'est qu'on est sur des totems et des tabous en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des idées toutes faites, il y a des espèces de tabous, de déni, et on a l'impression qu'il faut toujours faire la même chose. Or, faire toujours la même chose produit ce que l'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire une délinquance des mineurs qui est de plus en plus violente, qu'on n'arrive pas à stopper, des juges des enfants qui sont débordés, et en plus, on a légiféré, en tout cas, c'est ce que nous pensons dans notre syndicat, à contre-temps et à contre-sens.
Avec la fameuse justice à deux temps, c'est bien ça. C'est ce que dit d'ailleurs notre consultant et ancien magistrat Georges Fenech. Il parle quand même d'une justice là contre-productive.
Oui, parce qu'en fait, la construction d'un mineur a quelque chose encore plus d'important dans la construction de l'interdit, c'est qu'il faut, et c'est ce que dit encore le pédopsychiatre Maurice Berger, qu'il rencontre la réalité de la sanction. Les paroles n'ont aucune importance. On est par exemple sur aussi un présupposé que la première fois c'est gratuit. Vous savez ce qu'on appelle une forme de sursis qui fout une progressivité. Il dit non, c'est faux. Si les faits sont très graves, au contraire, le mineur a besoin de ce qu'il appelle la butée. La butée, c'est la rencontre physique avec une vraie sanction. Donc c'est pour ça que nous on dit que toutes les mesures qui ont été prises sont contre-productives. Parce qu'on a coupé en deux. En fait, c'est quoi la césure? C'est qu'on a fait deux audiences au lieu d'une audience. Donc on dit plus vite, vous êtes coupable, mais on attend plus longtemps la, sanction. Et donc ça ne va pas, parce qu'un mineur, un an, bah déjà un an, c'est passé depuis très longtemps, il ne comprend pas, et il a l'impression, on confond le temps judiciaire et le temps éducatif.
Béatrice Brugère, vous avez parlé de totem et oui, de tabou, aussi une forme de déni. Parlons-en. Qui sont ces mineurs et comment expliquer ces nouvelles formes de violence? Y a-t-il aussi un aspect culturel qui est mis de côté quand on sait, par exemple, que cette famille afghane, dont le fils est donc suspect dans le meurtre de Matisse, est décrite à notre micro et par l'entourage, par le quartier, comme étant extrêmement violente aujourd'hui? Est-ce qu'il y a aussi une forme de déni à ne pas tenir compte d'un aspect culturel contre lequel il faudrait d'ailleurs lutter par l'intégration, l'assimilation?
On ne peut pas lutter contre des choses qu'on ne comprend pas ou que l'on ignore.
Encore aujourd'hui, on ne le comprend pas.
Mais on l'ignore, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études, il n'y a rien, on ne fait pas ça. Le seul qui a à peu près, ou en tout cas mis le point sur ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire des pratiques, des rapports à la violence qui sont différents, égalité homme-femme, exactement, ou des familles monoparentales où il n'y a pas de figure paternelle, ou des exportations de violence dans la manière de sanctionner, ou des expositions à la violence, etc., ou tout simplement une déstructuration de certaines familles, tout ça est totalement dans le déni, et si on n'est pas prêt à regarder les choses comme elles sont, à ce moment-là, on ne pourra pas y répondre. Bien évidemment qu'il y a des spécificités qui sont très intéressantes. Encore une fois, Maurice Berger le raconte dans son livre sur justement la violence des mineurs, sur cette extrême violence qu'il faut comprendre. Et si on ne la comprend pas, on ne pourra pas la combattre.
Ce qui est incroyable, c'est que le premier... Enfin, c'est pas une question politique, mais c'est plus que de la politique, c'est très important, il en va quand même presque d'une non-assistance à mineurs en danger. Quand le Premier ministre dit qu'il faut s'attaquer aux racines de cette violence, mais alors si on ne la connaît pas?
Oui, et quand vous parlez de non-assistance à mineurs en danger, c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas non plus comprendre la violence du mineur délinquant sans mettre en parallèle l'affaissement aujourd'hui de la protection des mineurs sur les mineurs en danger. C'est-à-dire que une des causes majeures de la violence des mineurs, c'est des mineurs qui sont maltraités. Alors la maltraitance peut être extrêmement large, et là vous savez qu'aujourd'hui les juges des enfants n'ont plus les moyens, les départements n'ont plus les moyens pour faire tous ces placements, c'est un sujet extrêmement important. Donc là on a des dysfonctionnements systémiques qui sont majeurs. On a un deuxième problème qui est la déscolarisation, et là ça interroge quand même ce que notre éducation nationale est capable de faire ou de ne plus faire. On a le problème de la prévention des addictions avec un taux de consommation de cannabis qui est extrêmement important, qui à la fois joue sur la santé mentale, sur la déscolarisation, sur le trafic de stupéfiants et sur la violence.
Mais à chaque fois que des questions de moyens, est-ce qu'il n'y a pas aussi un prisme idéologique parfois à se dire c'est un mineur, pas de passage évidemment par la case prison, pas de comparution immédiate. Est-ce qu'il faudrait changer totalement ce logiciel?
Oui, par exemple,
selon...
mais complètement. Par exemple, on a des totems, il ne faut jamais quasiment pas incarcérer un mineur. Pourquoi? On est contre les ultra courtes peines. Je pense que, au contraire, il faut tout de suite stopper les parcours de délinquance. On est en train d'opposer l'éducatif et le répressif sur une espèce de partition complètement sotte, idéologique. Si vous êtes contre si vous êtes répressif, ça veut dire que vous êtes autoritaire. Si vous êtes gentil, vous êtes que sur l'éducatif. On a un problème aussi parce qu'on a un trou noir sur les mineurs de moins de 13 ans. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la délinquance est de plus en plus jeune. Or, un mineur qui a moins de 13 ans ne peut absolument pas être sanctionné, etc. etc. On a désarmé aussi la capacité des parents à sanctionner. On a désarmé la capacité des professeurs à faire régner l'ordre. Regardez sur l'espace...
Mais désarmé, c'est un désarmement que vous décrivez, parce qu'il est vrai qu'il n'y a, s'il n'y a aucun territoire qui n'est plus épargné ou sanctuarisé, l'école ne l'est plus du tout. Non. Et malheureusement, quand on dit école, sanctuaire, ça c'est du passé.
Et oui, et regardez par exemple, même sur la voie publique, la difficulté des policiers à faire régner l'ordre public. Regardez la problématique des bailleurs sociaux à faire régner...
C'est le vaste sujet de l'autorité, l'autorité
c'est
qui
la question
est scandée.
De l'autorité.
Mais alors comment on la décrète, ça c'est autre chose.
Alors l'autorité, c'est pas l'autoritarisme déjà. L'autorité, c'est l'exemplarité, c'est la légitimité de votre action et c'est l'efficacité. C'est-à-dire que ce n'est pas que la parole. Or aujourd'hui, le discrédit de la parole publique est la crise de l'autorité. Parce que à force de dire il faut faire et ne pas donner les moyens ou les outils pertinents pour agir, et c'est pas que des moyens financiers, c'est des moyens intellectuel, c'est les moyens, c'est la capacité de sanctionner, etc., etc.
Les lois sont, je veux dire, notre code pénal est plutôt, et même il est bien fait, j'en reviens par exemple à l'affaire Matisse. Comment veut-on que les Français comprennent, et je fais référence d'ailleurs au titre de votre livre, La colère montre, que ce mineur d'origine afghane qui est connu des services de police pour des faits de vol aggravé n'ait pas été davantage sanctionné et pas passé par même une case prison.
Eh bien voilà, quand je dis qu'on a réformé à contre-temps et à contre-sens, il est étonnant que sous le même, j'allais dire, la même présidence, c'est-à-dire Emmanuel Macron, on vient de voter un code qui empêche de plus en plus de mettre en détention, qui retarde en vrai l'application de la sanction, pas de la culpabilité, mais de la sanction, et qui a supprimé la possibilité de faire des audiences rapides.
Alors vous nous décrivez des pompiers pyromanes.
Exactement. Et là, vous avez un Premier ministre, et il a raison de le dire, qui reprend ce que nous, on avait déjà proposé au moment du vote de la loi, à savoir regarder de près l'excuse de minorité pour les 16-18 ans, faire des comparaisons immédiates si nécessaire pour des faits extrêmement graves pour les 16-18 ans. Or, on vient de voter exactement l'inverse. Donc c'est vrai qu'il y a une incohérence, mais c'est une incohérence qui n'est pas propre à la justice des mineurs, qui est propre à la justice tout court.
D'accord, mais avec une urgence quand même, là, avec cet enchaînement qui laisse... C'est ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'on a fait exactement l'inverse de ce qu'on aurait dû faire.
En fait, il faut revoir tout le logiciel de l'exécution des peines. Et ce n'est pas simplement pour les mineurs, c'est pour toutes les peines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on punit trop tard et parfois trop longtemps. Et on a un problème de saturation, vous le savez, dans tous les lieux où on pourrait contenir, que ce soit la prison, mais ce n'est pas que la prison, c'est aussi les internats, les centres fermés, il n'y a pas de place, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait de la régulation. Et on ne fait plus de l'exécution des peines.
J'ai une question qui peut paraître philosophique, mais qui est très concrète. Est-ce que tout le monde est vraiment réinsérable? Je veux dire que lorsque vous vous acharnez sur Philippe à Grande-Synthe, quand vous êtes à 2 ou à 3, vous vous acharnez sur une personne, et pardon de donner les détails, mais cet homme a été défiguré à coups de batte de baseball. Je veux dire, quel adulte serez-vous et quels parents serez-vous plus tard dans cette même société?
Votre question, elle est pertinente parce que c'est la question de la réversibilité. C'est-à-dire que quand vous attendez trop longtemps, parfois il est trop tard pour faire. Et c'est pour tous les sujets, c'est pas que pour la délinquance. Mais la délinquance, c'est là où je dis qu'il faut changer totalement de logiciel.
Sinon?
Il faut au contraire agir très vite,
sinon,
y compris pour les mineurs. Sinon, on n'a plus de prise. C'est-à-dire que les parcours de délinquance que vous venez de dire, où les gens sont déjà sans empathie, ancrés dans un parcours de délinquance, les mesures de réinsertion sont quasi impossibles. C'est exactement la même chose pour le terrorisme. Si vous êtes extrêmement endoctriné, c'est très compliqué de vous faire sortir d'un endoctrinement. Donc la prévention, c'est la bonne sanction dès le départ, au bon moment. C'est pas nécessairement quelque chose de violent, c'est quelque chose qui arrive vite, bien, proportionnel et surtout certain. C'est surtout la certitude.
Pour conclure, Béatrice Brugère, qu'est-ce qui manque pour appliquer ce que vous dites et qui, je le précise, est demandé par vraiment une majorité écrasante de Français, et je le dis quelle que soit leur conviction politique aux Français? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Du courage?
Oui, peut-être qu'il manque du courage, une vision aussi, c'est-à-dire arrêter de penser avec l'événement, avoir une vision stratégique à long cours, investir le champ intellectuel pour ne pas légiférer à l'aveugle et sous l'émotion. Et surtout, ce qui manque, c'est de faire des évaluations des politiques publiques. C'est-à-dire que la loi, sans derrière des moyens et une évaluation de sa pertinence et de son efficacité, ne sert à rien.
Évaluation et courage. Merci beaucoup Béatrice Brugère. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, La colère monte, aux éditions de l'Observatoire. Je vous remercie, c'était votre grande interview.
Merci beaucoup de votre invitation.
Merci Sonia Mabrouk, merci Béatrice Brugère. Vos signatures Europe 1 du mercredi dans un instant.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Maman m'a appris à toujours aller de l'avant, même dans les moments difficiles. Mais quand elle nous a quittés, j'étais bouleversé. Je ne savais pas quoi faire, ni par où commencer. Alors j'ai appelé le 32 urgence d'essai. Un conseiller PFG était là pour moi et il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 3012. Une équipe urgence d'essai PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une prise en charge partout en France. Urgence d'essai 3012, un service PFG.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Oui, allô.
Allô de Volvic, patron. Parce qu'en ce moment chez Lidl, le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Volvic est à 3,18€ et le deuxième est à moitié prix, soit 1,59€.
Moins 50% sur le deuxième pack ? C'est une offre...
Très volcanique, comme la Volvic.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 35 centimes le litre pour un pack, 27 centimes le litre pour deux packs. Offre valable jusqu'au mardi 7 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Carrefour. Pour les French Days, avec 100€ de remise immédiate et 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le téléviseur Samsung LED 4K 145 cm revient à 399,99€ au lieu de 599,99€. Et c'est jusqu'au 13 mai dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Limité à 1800 pièces, référence TU58 CU7105, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Gaspard Proust est avec vous dans un instant sur Europe 1, juste après le résumé de l'actualité, le journal permanent, Christophe Lamarre.
Jusqu'à 150 000 personnes attendues aujourd'hui en France pour les défilés du 1er mai, entre 15 000 et 30 000 manifestants à Paris. Contrairement à l'an passé, les syndicats n'ont pas appelé à défiler ensemble. Une marche blanche aura lieu samedi à Châteauroux, hommage à Matisse, jeune de 16 ans, mortellement poignardé par un adolescent de 15 ans. Dernier drame en date qui fait réagir la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO ce matin sur Europe 1 et CNews. Béatrice Brugère alerte sur l'extrême jeunesse, le degré de violence et l'absence d'empathie qui caractérise les mis en cause. Le monde de la littérature en deuil. L'écrivain américain Paul Auster est mort cette nuit à 77 ans des suites d'un cancer. L'auteur de la trilogie new-yorkaise et Moon Palace a écrit plus d'une trentaine de livres traduits dans plus de 40 langues. La suite des demi-finales allées de la Ligue des champions de football. Le PSG se déplace ce soir sur la pelouse du Borussia Dortmund. Match à 21h. Hier, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont quittés sur un match nul de partout.
Merci Christophe Lamarre. Coup d'œil sur le temps, la météo avec beaucoup d'orages, notamment au nord du pays ce jour à Nissa.
Oui, c'est un temps très maussade, effectivement, tout au long de la journée. On a quelques éclaircies qui résistent sur l'Alsace et la Lorraine. Mais enfin, c'est gris sur l'ensemble du pays avec pas mal d'orages qui éclatent entre la Corse, la Côte d'Azur. Et puis 14 départements sont en vigilance orange aux orages. La Somme, l'Aisne, la Marne, l'Aube, l'Yonne, la Seine-et-Marne, l'Oise, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Paris. Soyez très prudents, les orages risquent d'être forts. Cette vigilance débute à partir de 17h.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. 8h32.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Voici venu l'heure de vos signatures Europe 1. Je voulais juste vous dire tout d'abord que toute l'équipe est au grand complet. Heureuse d'être avec vous en ce 1er mai. Bon repos si c'est le cas. Bon courage si vous bossez. Merci de votre fidélité. Gaspard travaille. Vous l'aurez doté.
Ouais,
c'est pourtant un jour férié.
Dans d'où un les quart... orages.
D'où les orages, exactement. Dans un quart d'heure, votre zapping politique avec Dimitri Vernet. Emmanuelle Ducrot, elle nous parlera de la bonne ville de Denain, dans le Nord. Denain qui vient de se faire lâcher par ses assureurs. Rien à voir avec le risque climatique, c'est plutôt le risque social. On verra lequel. La revue de presse d'Europe 1 dans 5 minutes également. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour mon cher Dimitri.
À la une des journaux ce matin. Mais quels journaux d'ailleurs?
Eh ben, vous verrez bien. Mais je vous parlerai quand même de la Macronie qui n'a pas dit son dernier mot. On parlera du mur jaune, de libre arbitre. Et du slip divorce.
Ah, du slip divorce. SL2EP, hein, le divorce du sommeil. Je précise l'orthographe.
D'accord.
Allez, à tout de suite, Olivier Delagarde. Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous, je vous le disais. Bonjour Gaspard.
Bonjour tout le monde, Dimitri, Anissa, Delagarde, Ducrosse. Bravo à vous d'être là. Ce matin, 1er mai, fête du travail, car vous avez pris cette fête au pied de la lettre. Si ça s'appelle la fête du travail, c'est que ce jour, on bosse. Eh oui, on bosse. Hein, quand c'est la fête de la musique, on fait de la musique. Quand c'est la fête de la saucisse, on mange des saucisses. Quand c'est la fête du slip, on claque de la fesse. C'est comme ça. Mais attention, si je vous dis ça, parce que nous, on est là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On est là. Serais-je marabouté? Si on est là, il ne faut pas que l'auditeur le prenne personnellement. On n'est pas là pour te stigmatiser, cher auditeur. On t'aime. Toi qui es probablement à 7h roupille comme une grosse feignasse. Alors, je parle évidemment de l'auditeur qui bosse dans le privé, parce que le fonctionnaire, c'est peut-être le seul jour de l'année où il se lève à 4h du matin. N'oublions pas qu'il a quand même, il doit se pointer à midi, place de la République, au concours de la pancarte crypto-communiste la plus débile possible. Concours de haut vol, puisque je rappelle quand même que Besancenot, Poutou, Binet et Artaud y participent. Je disais donc, on n'est pas là pour stigmatiser l'auditeur. Toi, fier employé du privé qui ne demande qu'à t'élever vers une classe sociale supérieure pour prétendre toi aussi peut-être un jour te promener en pantalon bordeaux, polo vert et pull rose sur les épaules sur une plage de la Baule. Oui, on pense à toi et on t'aime car on te connaît, on sait qu'à cette heure-là, tu jouis d'appuyer toutes les 10 minutes sur le bouton snooze de ton réveil en t'en foutant complètement parce que ce matin, c'est toi le maître du temps. Car on le connaît tous, on la partage avec toi, cette volupté d'appuyer comme un déterré sur le bouton snooze toutes les 10 minutes en sachant qu'on pourra faire ça jusqu'à midi. Hein ? Et on sait aussi qu'en vrai, par habitude, à force de se lever tous les matins à la même heure, cher auditeur, on a beau être le 1er mai, tu as malgré tout déjà ouvert l'œil à 5h du matin. Oui. Mais il te reste ce plaisir que personne ne peut te voler. De 5h du matin à 11h d'appuyer toutes les 10 minutes sur le bouton snooze. Je me lève, non, bam, je dors. Je me lève, bam, non, je dors.
Quelle introduction, dis donc.
C'est normal, à un moment, il faut aussi se mettre à la place des auditeurs, Dimitri. On ne peut pas vivre déconnecté.
Vous nous aviez parlé hier, Gaspard, des députés de la France Insoumise qui rendent visite aux étudiants manifestants à la Sorbonne et à Sciences Po pour la Palestine.
Ah, c'était pour la Palestine ? Vous faites bien de me le dire, parce que quand j'ai vu les images, ça ressemblait quand même plus à une fête des voisins organisée par le Hamas.
Ça vous choque, la présence de députés LFI en soutien à ce mouvement ?
Et les filles, si on leur enlève ça, qu'est-ce qu'il leur reste? Et les filles, c'est leur ADN, le chocage. Hein, c'est une forme de taser verbal. Mais je veux dire, non, ce qui me choque avec eux, c'est qu'ils se pointent toujours avec une écharpe tricolore.
Mais en quoi c'est choquant?
C'est pas pour filer la métaphore de Jean-Luc, mais un député de LFI avec une écharpe tricolore, c'est à peu près aussi crédible qu'Adolf Eichmann en costume de rabbin. Hein, c'est peut-être que du second degré d'ailleurs, hein, mais vous savez, moi, à mon avis, ils se rendent pas compte qu'ils portent l'écharpe tricolore.
Ah oui?
Tu vois, leur tête, ils ont toujours l'air à moitié réveillés, donc à mon avis, ils enfilent le truc à la va-vite, c'est un geste réflexe. Ils se promèneraient dans la rue avec un chou-fleur sur la tête et une chaussette sur le sgeg, ça serait du même ordre, je vous assure.
Vous avez cité Émeric Caron hier, qui n'était pas le seul présent au point de blocage. On a pu apercevoir aussi Thomas Porte, celui qui avait collé la tête d'Olivier Dussopt sur un ballon. Il y avait aussi Louis Boyard.
Oui, ils étaient là. Schtroumpf colère et Schtroumpf en surpoids. Hein, et on peut dire ce qu'on veut, mais ces deux-là, on aime, on n'aime pas, mais ils sont efficaces.
Ah oui?
Ah ouais, à LFI, on les appelle les Uber Schtroumpf-Führer. Avec eux, on a toujours droit à des images médiatiques ultra puissantes.
Vous trouvez?
Oui. Thomas Porte avec son écharpe qui s'interpose entre les CRS et les Castors Juniors qui font la révolution. C'était puissant comme un tableau de Delacroix. Après la liberté guidant le peuple, l'abus couvant les sardines. Et on va s'arrêter là, parce qu'il y en a encore pour demain.
Bon, un peu de rap pour demain, c'était bien. Les bus couvrent les sardines.
Oui, c'est beau quand même.
Bon, merci beaucoup Gaspard.
Je vous en prie.
C'est un plaisir. On vous retrouve demain matin, même heure, même endroit.
C'est un plaisir d'être là le 1er mai.
Mais oui, la fête du travail, vous l'avez
ça
dit.
Ça se voit, vous rayonnez. Non, mais c'est vrai.
Mais ça roule très bien.
Comme les rayons du supermarché.
Vous serez rentré aussi vite que vous avez pu venir. Allez, dans un instant, restez avec nous.
Rayonne.
On va retrouver Emmanuel Ducrot et Olivier Delagarde pour la revue de presse d'Europe 1. À tout de suite.
Bonjour, c'est Sophie Davant. Quand
on a appris qu'on allait recevoir sur Europe 1 le réalisateur des Visiteurs, du Père Noël est une ordure et de Papy fait de la résistance, on a décidé de lui dérouler le tapis rouge. Nous vous proposons une émission de Sophie et les copains spécial cinéma avec comme invité exceptionnel Jean-Marie Poiré. 2 heures de stars, d'anecdotes et de coulisses. Soyez là, on va jouer ensemble.
Sophie et les copains, émission spéciale cinéma.
Je vous retrouve demain de 16h à 18h sur Europe 1.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « Je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Il y a 30 ans, le 1er mai 1994, le pilote de Formule 1, Ayrton Senna, perd la vie sur le circuit du Grand Prix de Saint-Marin à Imola.
Oui, et cet après-midi, Stéphane Bern vous raconte dans Historiquement Vôtre la véritable histoire d'Ayrton Senna. Rendez-vous donc de 15h à 16h sur Europe 1.
La revue de presse d'Europe 1 sans journaux en ce 1er mai. En effet, c'est le seul jour de l'année, Olivier Delagarde, où la presse ne paraît pas.
Eh oui, mais il reste bien sûr les sites de vos quotidiens réactualisés quand même assez mollement. Un jour comme aujourd'hui, et pendant que nos confrères de presse écrite baguenaud dans les prés à la recherche de quelques brins de muguet, le gouvernement, lui, fourbit ses armes, nous annonce le site du Parisien aujourd'hui en France. Parce que hier soir, au QG des macronistes, avait lieu le premier comité politique de la campagne, raconte Pauline Thévenot. Un grand moment de secouage de puces et de méthode couée. Maintenant, on y va. On ne cède pas à l'esprit de défaite et on se bouge. C'est ce qu'a demandé le président à ses troupes. Et normalement, on devrait voir dans les jours qui viennent du ministre dans l'ouest de la France, parce que la Bretagne est devenue l'obsession d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Il est persuadé que pour son camp, le scrutin se joue là, en Bretagne. Alors, ça se joue peut-être aussi un peu sur les axes d'attaque de la majorité. C'est Gérald Darmanin qui a eu cette formule. Mélenchon dit « Gaza, Gaza, Gaza ». Nous, Ukraine, Ukraine, Ukraine. Et Bardella, la France, la France, la France. Pas idiot peut-être de parler aux gens de ce qui les intéresse le plus.
Mais celui qui est désormais très attendu, c'est Gabriel Attal.
Eh oui, parce que le Premier ministre va donc débattre avec Jordan Bardella. Seuls les idiots ne changent jamais d'avis, écrivent malicieusement Paul Chollet et Éric Mandonnet sur le site de l'Express. Les journalistes qui rappellent qu'Attal ne voulait pas débattre avec le président du RN, sauf que c'est Emmanuel Macron qui le lui a ordonné. C'est en tout cas ce que croit savoir le canard enchaîné. Un duel qui ne sera pas dénué d'ambiguïté stratégique, exprime l'Express. La Macronie cherche à ramener le scrutin à un étage européen quand le Rassemblement national l'érige en référendum contre la politique gouvernementale.
Allez, on passe à un autre match européen.
Celui évidemment entre Dortmund et le PSG. C'est ce soir à 21h en Allemagne et sur son site. L'équipe vous fait découvrir ce qui attend les Parisiens, le fameux mur jaune. Le stade du Borussia Dortmund n'est pas seulement le plus grand d'Allemagne avec ses 81 000 places. Il possède surtout l'une des tribunes les plus connues du monde, le mur jaune, la Südtribüne, haute de 40 mètres et large de 100, avec une inclinaison de 37 degrés. Au lieu de la ferveur des supporters, elle est réservée aux détenteurs d'une carte annuelle transmise de génération en génération. Toujours pleine à craquer, elle compte 25 000 spectateurs, tous vêtus de jaune et noir, ce qui fait d'elle la plus grande tribune debout d'Europe. Alors ce soir, comme l'UEFA impose des sièges, ils ne seront que 16 000. Mais avec ce soutien incroyable, nous pouvons battre n'importe qui, prévient Emre Can, joueur du Borussia. Nos adversaires sont à chaque fois impressionnés par cette ambiance. Certains en ont même peur.
Alors voilà les Parisiens prévenus, les joueurs du PSG qui de toute façon ont leur destin entre leurs mains.
Eh ben pas si sûr, Dimitri. Sommes-nous vraiment maîtres de nos choix ? C'est le sujet d'un dossier passionnant à lire dans Science et Vie, moi aussi. Le libre arbitre, cette faculté qui nous permettrait de faire des choix en toute conscience, agite les débats dans les neurosciences depuis 50 ans, explique Anne de Broise. Certains le remettent totalement en cause, comme l'Américain Robert Sobalski. Lui estime que nous n'avons aucune prise sur nos choix. Selon lui, nos actions seraient le résultat de l'influence de nos émotions, de notre état physiologique et de nos expériences. Le chercheur en appelle même à une réforme de la justice. Car si l'humain n'est pas libre de ses choix, il ne peut pas être tenu pour responsable de ses actes. Et voilà donc l'excuse d'irresponsabilité.
Oui, audacieux, hein.
En fait, de nouvelles techniques d'imagerie et d'analyse battent en brèche cette théorie. Le libre arbitre existe bel et bien, même si nos actes sont aussi conduits par notre inconscient. Vous lirez donc tout ça dans Science et Vie, ou pas, puisque c'est vous qui décidez. Et en ce 1er mai, comme nous disait Gaspard, vous pouvez aussi faire le choix de rester au lit, y dit, et d'y rester toute seule, mesdames. C'est la nouvelle tendance du moment, cela s'appelle le sleep divorce, nous apprend Marie-Claire dans ce style inimitable propre au magazine féminin fait de franglais branchouilles matinées d'écriture inclusive. Le sleep divorce, c'est tout simplement faire chambre à part. C'est Cameron Diaz qui a découvert que c'était très bien, qu'il a posté sur je ne sais quel réseau social. Et du coup, toutes ces dames ont viré leur conjoint de la couche conjugale ou ont tenté. Mais c'est pour la bonne cause, nous explique Esther Ledroit, parce que le sleep divorce évite le divorce tout court. 37% des Français se disent insatisfaits de leur sommeil, et pour beaucoup, ce sont des femmes, parce que 33% des hommes ronflent. Et la preuve que ça marche pour Marie-Claire, le Canada, pays où l'on fait le plus chambre à part, est aussi celui où les couples se séparent. Le moins, c'est QFD. Voilà, messieurs, vous voilà rassurés. Vous qui m'écoutez depuis le canapé du salon, vous pouvez presque tenter de vous rendormir.
Alors attendez, vous dites 33% des hommes ronflent. Vous n'avez pas donné le pourcentage des femmes qui ronflent.
17%.
Voilà, c'est bien, il faut quand même rétablir les choses, c'est important. Merci beaucoup.
Vous pensiez que vous allez me coincer là, avec j'avais le chiffre des femmes.
Mais vous savez que quand on vit chacun chez soi aussi, on divorce beaucoup moins. Hein. Il n'y a pas que chambre à part.
Et quand on n'habite plus du tout ensemble, on
divorce plus. Là, ça fonctionne très très bien. On ne divorce pas non plus. Hein.
Tiens, mais quelle est cette voix que j'entends? Vas-y donc, c'est Emmanuel Ducrot qui est avec nous. Merci beaucoup Olivier Big de la Garde, la revue de presse d'Europe 1. On va vous passer le bâton de parole, Emmanuel Ducrot, puisque vous êtes avec nous.
Parce que je l'ai pris.
Voilà, vous nous parlez ce matin de la petite ville de Denain, dans le nord, près de Valenciennes. Denain qui avait été ravagée l'an dernier, en juin 2023, par les émeutes consécutives à la mort du jeune Naël à Nanterre. Eh bien, Denain n'a pas fini d'en payer le prix. Elle a été lâchée par ses assureurs.
La maire socialiste de la ville, qui s'appelle Annelise Dufour-Tonini, est inquiète et elle s'en est ouverte aux équipes locales de France 3. Elle raconte que depuis le 1er janvier, sa ville, qui compte 20 000 habitants, n'est plus assurée. En juin 2023, il y avait eu des sévères dégradations à Denain. Le théâtre, la gare, la mairie, les trois quarts des bâtiments de la commune avaient subi des dommages plus ou moins graves. Préjudice 600 000 euros. L'assureur, la Maïf, a payé, mais il a juré qu'on ne les reprendrait plus. Il n'a pas voulu se réengager. Assureur militant, la maire de Denain est très en colère. Sa ville n'avait jusqu'ici quasiment rien coûté aux assurances. Quand l'assurance n'a pas à intervenir, il n'y a pas de souci, dit la maire. Par contre, dès qu'un incident se produit, qu'on a besoin d'aide, elle nous lâche. Je suis très déçue par cette attitude de non-engagement dans les territoires.
Et aucune autre compagnie n'a voulu prendre le relais pour Denain.
La ville a lancé un appel d'offres, aucune n'a répondu. Les émeutes de 2023 ont fait tant de dégâts que le profil de Denain est devenu dissuasif. Et pour l'instant, les recherches auprès de courtiers n'ont rien donné non plus.
Ça veut dire que la ville est sans filet de sécurité ?
Oui, et elle est malgré elle dans l'illégalité, car les collectivités doivent assurer leurs bâtiments, comme vous et moi. C'est aussi périlleux pour les finances de la ville. Le moindre sinistre coûterait extrêmement cher à Denain, qui est une commune pauvre et qui n'aurait pas les moyens d'y faire face seule. Évidemment, la mairie réfléchit à deux fois avant d'organiser quoi que ce soit qui pourrait présenter un risque qui ne serait pas assuré. Ça pénalise les habitants de Denain, dont beaucoup souffrent de la pauvreté. C'est le deuxième effet qui se coule du défoulement des casseurs et des voyous pendant les émeutes.
Mais dites-moi Emmanuel, est-ce qu'il y a une solution pour la ville de Denain ?
Alors pour Denain et pour de nombreuses autres villes qui, comme elles, sont privées d'assurance après les émeutes ou qui ont vu leurs primes devenir stratosphériques. La Gazette des communes, qui est un quotidien destiné aux maires, a consacré récemment une enquête à ces communes naufragées de l'assurance. Il y a d'ailleurs une mission parlementaire en cours pour évaluer le phénomène. Dans les Hauts-de-France, il y a plusieurs villes concernées. Le président de la région, Xavier Bertrand, a appelé l'État à prendre ses responsabilités et à mieux accompagner ces collectivités territoriales dans l'impasse. Ben oui, dit-il, elles ne sont pas responsables des émeutes. Gabriel Attal, le Premier ministre, a reçu les maires concernés la semaine passée. Il leur a promis des solutions dans le courant du mois de mai.
Mais qui est responsable des émeutes? C'est une bonne question, ça. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot, signature Europe 1. Il est 8h48. Vous retrouvez de 11h à 13h Pascal Pro. Alors, vous ne connaissez pas le rendez-vous, peut-être, si vous nous écoutez en ce 1er mai que vous êtes en congé. Profitez-en, c'est sympa. Et en plus, on prend la parole sur l'antenne d'Europe 1. On peut dialoguer avec Pascal qui est avec nous. Bonjour, Pascal.
Cher Dimitri, oui. C'est vous?
C'est moi, oui, c'est moi, tout à fait.
C'est vous, en fait, je devrais dire même c'est toi, parce que je t'aime beaucoup.
Ah ouais, moi aussi, je t'aime
c'est
bien,
toi.
Pascal.
C'est toi.
C'est la première
c'est
fois que tu me tutoies, Pascal.
Oui, parce que je sais ce qui est arrivé cette nuit.
Ah
c'est
bon
toi.
Qu'est-ce que c'est toi. Mais qu'est-ce que
on
j'ai fait
sait,
c'est toi,
Dimitri.
On le sait.
On le sait.
On le sait,
c'est
quoi.
C'est toi. Non, mais dis-le, tu
bon,
peux
d'accord.
Le dire, on
allez,
est des amis.
Moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait.
Mais si on le sait,
166 millions, c'est toi. Balance.
Vous avez vu comme il est mal à l'aise.
Régal.
J'aimerais
régal,
tellement.
Dimitri.
J'aimerais tellement.
Bon, ça, français.
Vous savez qu'on a essayé, on a échafaudé des plans. Qu'est-ce qu'on ferait avec tout cet argent?
On réfléchissait à ça.
Ben si, c'est assez facile.
Ouais.
Ce que vous faites, vous allez. Bon. D'abord, vous n'allez pas vous mettre au soleil à rien faire. Donc, vous allez investir peut-être dans un domaine que vous aimez bien. Donc, si vous aimez le cinéma, ben vous allez investir dans le cinéma,
ah, ça,
produire
c'est vous,
des
ça,
films.
Pascal, ça.
Si vous aimez la littérature, peut-être que vous continuerez de faire l'émission le matin et puis l'après-midi, vous.
Vous savez ce que je ferais? Je me paierais un entarteur professionnel.
Oh non, mais non, ça c'est pourquoi,
pourquoi ah, pour rigoler comme ça.
Oh, non. Mais le problème c'est qu'on faut travailler.
Non, vous avez totalement raison.
Donc faut voilà, vous
oui.
Pouvez c'est
faut
ça.
Voyager si aussi.
Oui, voyager.
Bon. Bon, bien tenté. Bon,
autre, donc c'est vous.
Ben oui, j'aurais bien aimé.
166 millions. Alors
incroyable.
Il sera avec nous tout à l'heure à 11h avec nous.
Le ben, gagnant.
Oui, on va essayer de le chercher. J'ai
d'accord.
Demandé à Monsieur Boubouk de se mettre sur cette affaire.
Gros
Monsieur
dossier,
Olivier
quand même.
Guénèque, je ne sais pas s'il va trouver. Le 13, le 22, le 24, le 33, le 47 et le 5 et le 1.
Vous nous avez dit hier
compte
que le 12 et le 13 ouais. Étaient
mais
dans les numéros.
Vous vous rendez
qui
compte
tout le temps.
À quoi tient la vie? À quoi tient la vie? Si par exemple, j'avais dit hier matin le 13, le 22, le 24, 33, 47, 5, 1, eh ben j'aurais 166 millions ce matin. C'est fou la vie, hein.
Bon.
Ça me fait réfléchir. Tiens, je vais redire les numéros. 13, 22, 24, 33, ouais. 47, 5 et 1.
Qu'est-ce que vous avez
si,
pris
si simplement, vous rendez compte, si simplement ouais. On pouvait comme ça avoir 24 heures d'avance,
oui.
Ça serait merveilleux, non?
Oui, comme dans Retour vers le futur, vous
exactement,
savez.
Exactement, il y avait, c'est arrivé demain aussi, il y avait un film comme
non,
ça.
Non, demain
film.
À la une.
Ouais, ah, c'est demain à la une où il a.
Il recevait le journal
voilà.
Du.
C'est en noir et blanc, c'est un vieux film des années 40 ou 50.
Il recevait le matin le journal du lendemain.
Autre sujet qui vous intéresse à discuter.
Non, mais on essaye. Voilà, c'est aujourd'hui le premier. Vous avez apporté un brin de muguet à Anissa ce matin?
Rien
mais
du
écoutez,
tout, personne, aucun.
Et non, mais
les
le
deux
muguet,
Dimitri,
c'est maintenant.
Gaspard,
comment
Olivier.
Ça, c'est maintenant?
Bah, écoutez, le muguet est en train de fleurir là dans les rues. Là, et c'est maintenant qu'on va le trouver. Bah, je vous emmène demain, sans faute.
Bon, le 1er mai, c'est aussi la fête du travail. Je ne sais pas si vous allez manifester aujourd'hui. Et puis, on pourra parler d'Ayrton Senna. Il y a 30 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez où vous étiez lorsque
ah ben
vous
je
avez
vu,
appris.
Je me rappelle, je l'ai vu en direct.
Hein. Ouais.
Ça m'avait. J'ai pas compris ce qui s'est passé sur l'instant. En fait, du coup, c'était un banal accident.
Mmh. Et quand vous l'avez vu en direct.
Oui.
Ah bon.
Oui.
Parce que c'était des essais.
Ben oui, écoute, ça passait à la télévision.
Ah oui.
Ben
oui.
C'est... Mmh. Ou alors, attendez, peut-être je confonds avec un autre accident. Enfin, je me souviens très clairement. En
mais
tout cas,
non,
de
mais
mort,
c'est intéressant d'ailleurs. Et c'était le lendemain de la mort de Ratzenberger. Donc c'était il y a pile 30 ans et Senna c'est une icône bien évidemment, donc on pourra parler de tous ces sujets et puis on pourra parler de Fantomas également, on l'a dit hier, il y a une saga qui ressort, qui sort plus directement sur Netflix. La saga Fantomas.
Voilà, vous avez le
voilà,
programme.
Voilà, des sujets un peu plus légers peut-être.
Mais oui, ça fait du
avec
bien.
Avec toute l'actualité que... qui est sombre et dramatique. Vous
avez le programme, vous avez le menu de Pascal Pro et vous, c'est de 11h à 13h sur Europe 1 pour participer à l'émission Anissa Dadi.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé.
Allez, à tout à l'heure Pascal et on vous retrouve dans 10 minutes pour l'heure des pros, 8h52 sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous. Chose promise, chose due. Dimitri, j'ai regardé pour vous hier l'interview du député insoumis Louis Boyard sur BFM TV. Et comme attendu, bon bah il nous a fait du Louis Boyard. Voici ce que pense Loulou des manifestations pro-palestiniennes dans les universités.
Ces étudiants sont en train de donner une grande leçon à ce pays. Ces étudiants sont une fierté. Ils honorent la France.
Sur les élections européennes...
Qu'est-ce que vous pensez des sondages, par exemple, sur les européennes qui donnent à 6% la France insoumise
alors,
dans ces cas-là?
On est à 9%. On est en dynamique.
Waouh, quelle dynamique. Écoutez maintenant la cohérence, la logique de Loulou.
Je suis toujours favorable au droit de vote à 16 ans. Je ne suis pas favorable pour autant à ce qu'on leur donne le même statut que des majeurs, parce que ça reste des adolescents.
Mais ne riez pas trop, car vous risquez bien d'être d'accord avec Loulou sur un sujet, la GPA, la gestation pour autrui.
Il y a un sujet sur le fait que la marchandisation du corps des femmes n'est pas quelque chose qui me paraît acceptable.
Surprenant, comme quoi il peut être fort, Boyard. La musique de Fort Boyard, ça marche tellement bien en politique, notamment à l'Assemblée, où on a même notre père Fouras, ou plutôt le père Gauchas. Manuel Bompard questionnant le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
On convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. Avez-vous l'intention de saper un à un les fondamentaux de notre état de droit? Quand allez-vous cesser de défigurer la France?
Forcément, cette question, elle n'a pas vraiment plu au ministre, qui a donc sorti les gants pour boxer notre cher père Gauchas. Aïe, 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 attention, ça fait mal.
On va se dire les choses très clairement, monsieur. Vos amis à vous, ce sont les mollas, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. Laissez faire la justice en toute indépendance et elle fera son travail. Personne n'est au-dessus des lois, pas plus madame Panot qu'une autre.
Aïe. Pendant ce temps-là, Marie Toussaint, la candidate écolo pour les européennes, était sur France Info.
Je trouve que c'est d'un cynisme incroyable, que c'est mettre de l'huile sur les braises.
Oui, excusez-la, Marie a beaucoup de mal avec l'expression « souffler sur les braises ».
On ne peut pas dire qu'on veut la justice et la paix et de l'autre côté, remuer les braises.
Oh là là, Marie, bon, allez, c'est pas vraiment compliqué quand même.
Et souffler sur les braises.
Et qui c'est la meilleure chez les Verts? Qui est la pastèque d'or? Bah vous le savez bien, c'est Sandrine Rousseau, oui.
Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak.
Au pays de Sandrine. Bienvenue au pays de Sandrine Rousseau, un 1er mai. Et je suis désolé, on ne s'offre pas de muguet au pays de Sandrine. Bah oui, c'est soi-disant pas très très écolo.
Tout est dans la modération et la sobriété. L'écologie, c'est vraiment ça, le cœur. Et donc, si on se contente d'un petit brin de muguet, allez, en mettant dans le jardin, parce que ça peut pousser, donc plantons du muguet.
Ah si, ça va, on a le droit quand même. Mais juste un brin, hein, pas plus, soyons fous.
Un peu d'astuce, d'espièglerie.
C'est la vie de Sandrine.
Non, c'est 3 brins et 13 clochettes sur les 3 brins. Enfin, pas 13 clochettes par
pas
brin.
Pas pour Sandrine, je suis c'est désolé, Dimitri.
Non, Vanessa nous a expliqué ça
c'est
tout
ça,
à l'heure.
C'est ça, la tradition.
Ah, la tradition.
3 brins et 13 clochettes.
Mais voilà. Pas au pays de Sandrine, je me répète. Ouais, je suis désolé, Vanessa.
Non, merci mais c'est bon, beaucoup, Dimitri Vernet, le zapping politique Europa. Restez avec nous sur Europa. Je vous rappelle qu'à 9h30, Culture Média, avec deux invités cinéma à partir de 10h,
Anissa Dali. Artus et Alice Belaïdi pour le film Un petit truc en plus, c'est le premier film d'Artus qui sort aujourd'hui, qui est drôle et touchant à la fois.
Allez, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain matin, vous avez rendez-vous avec Pascal Praud, l'heure des pros dans un instant sur Europe 1, bonne journée.
Europe 1.
Quand vous avez un brise-glace, ça vous paraît compliqué à gérer? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va?
Non, je suis accro.
Eh ben moi, je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les
des acras de morue.
Eh oui, et issu de la pêche durable.
Ça peut plus durer.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
40 ans de regard incisif sur l'Amérique. C'est ce que propose le musée Mayol en présentant une grande rétrospective de l'artiste américain Andrés Serrano. Plus de 80 photographies révèlent une Amérique aux mille facettes. Religion, sexe, pauvreté, racisme, Andrés Serrano explore tous les tabous de son pays. Andrés Serrano, portrait de l'Amérique, une exposition au musée Mayol à Paris. Un partenariat Europe 1.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative de Noirmoutier, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. On se retrouve cet après-midi de 15h à 16h dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Historiquement Vôtre.
Alors qu'un terrible accident lui a coûté la vie il y a 30 ans jour pour jour, je vous raconte le destin du pilote brésilien qui a traversé son époque comme les circuits à toute vitesse. La véritable histoire d'Ayrton Senna, le champion qui a trop vite quitté la piste.
Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
C'est cet après-midi de 15h à 16h sur Europe 1.
Europe 1 et CNews, 9h, 9h30, l'heure des pros, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue en ce 1er mai sur Europe 1 de 9h à 9h30. Et nous serons jusqu'à 10h30 sur CNews comme tous les jours. Il m'arrive souvent d'exprimer mon étonnement devant les décisions de justice. La mort de Matisse à Châteauroux est l'occasion une nouvelle fois de vous faire part de mon incompréhension. La mère de l'adolescent de 15 ans, ce jeune homme suspecté d'avoir tué Matisse, cette mère est mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Elle est soupçonnée d'avoir giflé Matisse, qui venait d'être poignardé par son fils. Elle a d'ailleurs reconnu avoir porté des coups. La mère du mineur, qui suivait celui-ci, a asséné à son tour des gifles à la victime. C'est ce qu'a dit la procureure de la République, Madame Céline.